Radio Campus, il est 19h.
Bonjour, c'est Jeff Kino sur Radio Campus. Je vous invite à venir fêter mes 50 balais, mes 50 patates, mes 50 piges au Splendide de Lille le 6 mars avec pléthore d'invités. Le Black Note Big Band de Ronchin, Loïc L'Antoine, Franck des Marcel, Alex des Blaireaux, Philippe des Mauvaises Langues, Les Mauvaises Langues, Monsieur Rémy, Cécile Cognier de Cactus in Love, plein d'invités, William Schott. Voilà, vous allez adorer. Et ça va être énorme. Voilà, donc le 6 mars au Splendide, venez nombreux, ça va être une belle, belle soirée.
Pas facile d'être un serial lover, romantique du paddock, tu restes final, un beau joueur.
Vous vous rendez compte que votre plateau c'est est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil. Mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme, n'y pas, jouez pas au con avec lui.
On est trop gentils.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentils, hein? On est toujours gentils.
C'est le capitalisme, n'y pas.
Le rouge veut dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que Véran.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentils.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus 106,6. Aujourd'hui, encore comme tous les lundis, on passe au rouge de 19h à 20h. On passe au rouge, une émission que tu réalises, Seb.
C'est une émission animée par Gros Dada et Jean-Jacques.
Et Jean-Jacques qui arrive. Jean-Jacques arrive avec une colonie d'enfants.
Oui.
C'est très bien, ça sera le public de notre émission. Asseyez-vous les filles, assieds-toi Jean-Jacques, tu es le bienvenu. Aujourd'hui on va faire une émission de reportage, on va justement suivre Jean-Jacques tout à l'heure qui est parti à Lille dans la manif nationale des Gilets jaunes, une manif plutôt corsée, plutôt pas mal violente, avec en plus...
Ça avait l'air tendu.
Oui, ça avait l'air très très tendu, avec en plus l'arrestation... L'arrestation de Jérôme Rodriguez en son sein. On partira avec
une voiture renversée. Je ne sais pas si tu l'as vu.
Ah oui, c'est vrai. On a les photos. On a les photos. On a aussi
parce qu'il y avait un macaron Seb. République française.
Ah bah oui. Seb, toi, tu as fait un peu Tintin, le reporter du petit 20e. Tu es parti en Alsace pour suivre la manif contre la réforme des retraites.
Celle du jeudi 20,
celle du jeudi,
voilà,
ouais,
journée
ouais.
De grève.
Et tu nous ramènes donc du son avec des accents complètement fous. J'espère qu'on va pas vous perdre, hein, parce qu'on comprend pas tout hein, à ces gens-là.
C'est pas vrai.
Mais non, on va quand même.
On n'est quand même pas passé de l'autre côté de la frontière.
Non, pas encore. En tout cas, on essaiera, juste après Jérôme Leroy et son talon de fer, on essaiera d'envahir le MEDEF avec vous, Seb et Gigi. C'est vraiment une émission
ouais,
sur
ouais.
Vos tribulations dans ce mouvement social. On va vous suivre dans différents lieux.
On n'en loupe pas une.
Ah non, bah, okay. Mais vous grandissez un jour ou... C'est quoi le...
bon, pourquoi
enfin, alors ça suffit. Hein.
En
tout cas, on retrouve tout de suite Jérôme Leroy et son talon de fer, une chronique à relire dans Liberté Hebdo, bien sûr.
Pourtant, jusque-là, c'était plutôt drôle. On n'a pas tellement envie de parler de ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux. D'abord, parce que ce n'est pas seulement arrivé à Benjamin Griveaux, c'est arrivé à nous tous en tant que citoyens d'une démocratie. On peut, ce qui était notre cas, trouver que Griveaux incarnait le pire de la Macronie, opportunisme, cynisme, mépris de classe, arrogance, et constater que cette histoire est un symptôme. Celui de l'abaissement de la démocratie par une utilisation de type fasciste des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent l'arme absolue de milices virtuelles qui chassent en meute. Que la cause soit juste ou non, que tel écrivain soudain traqué ait été un pédophile, que tel grand cinéaste soudain déprogrammé ait été condamné dans une affaire de viol il y a près de 50 ans, ou que tel homme politique se soit filmé dans une sextape, les réseaux sociaux font justice eux-mêmes, ils lynchent, ils brisent des vies, des carrières, des familles, sans que les choses aient d'abord été jugées s'il y a lieu. On aurait tort de croire que ça n'arrive qu'aux autres. Quotidiennement, des lycéens et des lycéennes sont victimes de « revenge porn », des collègues sont dénoncés pour des propos tenus sur le patron ou sur un autre collègue. Internet, qui à l'origine était une utopie libertaire d'entente universelle, est devenu une commandanture électronique planétaire qui reçoit des millions de lettres de dénonciations virtuelles. Encore une fois, derrière ce désir de « transparence », entre guillemets, on voit une hideuse pulsion de mort, une pulsion fasciste. Pourtant, la campagne des municipales 2020 pour Paris, jusque-là, avait quelque chose de comique. Les propositions d'un certain nombre de candidats parmi les plus en vue étaient hautement farfelues. Dans quelle boîte à idées, justement, Benjamin Griveaux avait pêché son désir de transformer la gare de l'Est en un Central Park qui serait, selon le cliché consacré, un nouveau poumon vert pour la capitale. On a bien une idée. Inutile d'aller chercher du côté d'un mystérieux think tank écolo-social-libéral. Tout était déjà dans le formidable programme électoral du Capitaine Cap, candidat dans la deuxième circonscription du 9e arrondissement en 1893. On se reportera avec bonheur pour en savoir un peu plus au livre d'Alphonse Allais paru en 1902, Le Capitaine Cap, ses aventures, ses idées, ses breuvages. Ce qui a plu sans doute à tous les candidats ou presque en cette époque où l'on a honte de ses propres étiquettes politiques, c'est que le Capitaine Cap vient de la société civile. Marin et baroudeur, il avait notamment découvert des mines de charcuterie aux États-Unis. Voilà ce qu'il déclarait. « Homme neuf, j'arrive avec des idées neuves. Je veux vous faire profiter de ces idées et c'est pourquoi je viens à vous. Si vous me nommez, c'est un honnête homme que vous élirez. Je ne crois pas devoir en dire davantage. » Déclare-t-il dans sa profession de foi que Cédric Villani aurait pu faire sienne, lui qui écrit dans son programme « En me présentant à la mairie de Paris, je ne cherche ni la notoriété ni un métier. Dans cette élection, je suis certainement le seul candidat qui ne soit pas un homme politique professionnel et je n'aspire pas à le devenir. » Le Capitaine Cap a existé, au moins en partie. Il s'appelait Albert Capron. Il s'est effectivement présenté et a recueilli 143 voix, essentiellement celles des écrivains venus de la bande des Hydropathes qui écumaient le Quartier Latin et le cabaret du Chat Noir à Montmartre. Un certain nombre de propositions du Capitaine Cap ne sont guère plus absurdes que celles qu'on peut lire ici et là aujourd'hui. Par exemple, la place Pigalle, port de mer. A-t-elle beaucoup à envier cette proposition à la, ouvrez les guillemets, création de forêt urbaine place de l'Hôtel de Ville, alors que, déjà, en 2014, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, voulait aménager les stations de métro abandonnées en lieu de convivialité comme des piscines. Le problème, c'est qu'Alphonse Allais et Albert Capron étaient des maîtres de l'humour et du canular aimable, alors qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des candidats au sérieux en acier trempé.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant deux mois sur campuslille.com. Rapidement, là, on va aller se diriger vers Marc en Barœul pour envahir le MEDEF. Mais tu le sais pas encore, Seb, à ce moment-là, parce que t'es gare Lille-Flandre. Et on va l'entendre dans le sujet, là. On te suit, et Jean-Jacques, on le suit aussi. Vous vous dirigez, mais vous ménagez le suspense au début. Hein. Vous n'étiez pas au courant où vous alliez.
Ouais, c'était le 6 février 2020, un jour de grande mobilisation. Il y avait aussi une grande trêve et une manifestation régionale.
Et là, on est le matin.
Du métro, puisque après un petit flash mob à 8h ce matin devant la gare du Flandre, on est le 6 février 2020, on est invité par les manifestants, par les danseurs, à rejoindre le tramway pour aller au Croisé-la-Roche. On verra bien qu'est-ce qui nous y attend.
On est arrivé Genève.
Ouais, ouais.
C'est ici, Fabien?
Ah,
c'est ici?
Non, non, on est
ah, d'accord. Non, mais on est à l'île Europe, donc.
On a un bon moment, hein. Non, il n'a pas l'habitude.
Je vais le faire à chaque fois, je vais faire à chaque fois la blague. Ça va être très répétitif à un moment donné.
C'est quoi le rapport entre la contre-réforme des retraites et puis le mêlée?
Et ben, en fait, justement, nous, ce qu'on dit, c'est que la raison de nos malheurs et de nos problèmes, c'est en partie le fait qu'il y a une baisse considérable ces 20 dernières années des cotisations patronales. 26 milliards d'exonérations fiscales de cadeaux faits au patronat avec quand même pratiquement aucune contrepartie. 26 milliards, c'est quasiment trois fois le déficit des retraites. Donc les retraites le régime général des retraites qui sert à assurer 14 millions de personnes, d'accord, un déficit de 10 milliards, là où il y a eu 26 milliards d'exonérations fiscales juste en 2019. Donc voilà, donc on dit nous, c'est pas un problème de financement, c'est un problème de choix politique, d'arbitrage. Et voilà, donc ça nous semblait important de rappeler aussi qu'on n'oubliait pas qu'en fait derrière les politiques aussi du gouvernement, il y avait des gens qui étaient très favorables à ces politiques telles qu'elles étaient conduites, et que c'était notamment le MEDEF.
On est rue de l'Égalité à Marc-en-Barœul. On est un petit groupe de quelques dizaines de personnes, peut-être 40, 50. Et on est descendu à l'arrêt Croisé la Roche pour se diriger ensuite vers le siège du syndicat des patrons, vers le MEDEF.
Mais la retraite, quel rapport avec le MEDEF?
C'est une bataille idéologique. Donc du coup, le MEDEF est quand même un foyer de diffusion idéologique. Le MEDEF soutient la réforme par points depuis des années. Voilà. Et puis de toute façon, le MEDEF est défendu par les gouvernements depuis des années. Et donc du coup, effectivement, l'idée c'est aussi que le MEDEF s'en sort toujours assez bien en fait. Hein, le MEDEF, les Gilets jaunes, ils s'étaient pas attaqués au MEDEF. Etc. Le MEDEF a toujours une position un petit peu comme ça extérieure et il est préservé, alors que voilà, il faut aussi réintroduire de la conflictualité sociale, quoi. Bon, il y a des intérêts de classe et tout, donc faut les pointer.
Mais pourtant ils sont gentils, le MEDEF, il y a quelques jours encore,
ouais,
ils ont fait pression sur le gouvernement en faveur des enfants morts.
Bah, c'est magnifique, comme ça ils ont une bonne conscience et puis bah, ils ont trouvé plus à droite qu'eux, plus libéraux qu'eux, c'est fantastique. C'est génial, pour eux c'est génial. Tout est relatif. Il y a toujours une droite plus à droite que la droite. Et là Macron est plus à droite que le MEDEF. C'est beau.
Oui, on n'est pas dans n'importe quel quartier. Il y a des. Comme des petites tours aux maisons.
Grosses voitures, des.
On a croisé de bien propre. Et voilà que dans cette belle ville toute propre.
Surgit d'affreux gauchistes.
L'aigu.
C'est ça. Voilà, des manants subversifs.
Voilà, on y est.
La cité des entreprises.
Mais vous rentrez pas, monsieur, vous rentrez pas, monsieur.
Non, rentrez.
Je sais pas, par contre, excusez-moi.
Non, non, non,
vous chez vous,
dépêchez-vous. Des banderoles qui sont déployées. On peut lire. CIR, CICE, 26 milliards d'euros défiscalisés en 2019. Pour nos retraites, pour nos services publics, MEDEF, rends-nous l'argent.
Vous avez des entonnoirs sur la tête. Et pourquoi j'en ai un aussi d'ailleurs?
Ah bah je ne sais pas.
Quelle est l'idée? Vous êtes un peu fou.
Ça vient pas de moi, ça vient pas de moi.
D'accord.
On n'est pas fou.
Personne n'assume son entonnoir ici.
On nous prend pour des fous.
On est chercheurs fous. On va symboliser les chercheurs fous. Voilà.
Pourquoi fou?
Comme toi pour interviewer.
Qui est chercheur fou ici?
Nous on n'est pas chercheurs, on est étudiants, mais on nous prend pour des fous. Donc on rend un peu les choses de la même manière, quoi. On symbolise les choses de la même manière. Ce gouvernement gouvernement-là nous prend pour des fous, en fait. Ils disent qu'on ne comprend pas la réforme des retraites.
Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Il y a besoin de pédagogie.
Voilà.
La recherche est devenue folle. On met de l'argent d'investissement, des fonds de recherche, des fonds d'investissement pour la recherche dans des trucs totalement absurdes et pas du tout pour ce qui est utile et constructif pour la société.
Vous êtes étudiant aussi.
Moi, je suis étudiant et moi, je voudrais juste dire que le gouvernement ne donne pas les moyens aux étudiants et aux chercheurs de faire leur travail. Nous, étudiants, si on veut étudier, c'est pour travailler. Et si on veut travailler, on veut avoir un salaire, on veut aussi avoir peut-être une meilleure vie après pour la retraite. Donc c'est pour ça qu'on est tous mobilisés.
Alors, au siège du MEDEF local.
Donc au siège du MEDEF local, à Marcq-en-Barœul, on a le droit de le dire, on voit quand même des déroulants qui prônent le dialogue social, le droit social, les formations en IRP, des négociations collectives, ça parle des rémunérations, des avantages, des ressources humaines, enfin bref, c'est toutes les filières qui ont été regroupées dans chaque boîte pour éviter de perdre de l'argent inutilement. Maintenant, ils préfèrent passer par des grosses, je sais pas comment on appelle ça, mais des plateformes qui gèrent plusieurs boîtes et tout ça. Donc bah, c'est intéressant de voir qu'ils parlent de ça ici, hein. Mais ce serait bien de voir le contenu, en fait.
Le contenu, on s'en doute, c'est tout ce qui est remis en cause depuis des années.
J'imagine bien que ça doit être des belles piqûres patronales, donc oui, à mon avis.
Alors si t'es apprenante, c'est peut-être pour apprendre à enlever ses droits aux salariés.
Ah, peut-être, hein, oui, mais après, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'apprendre, vu que l'étoffe est déjà tout pour eux? Il n'y aura plus grand-chose à apprendre, c'est boss et tétot, c'est tout, voilà.
Ah, moi, il faut savoir gérer les négociations avec la CFDT.
Ouais, c'est vrai, faut les petits fours, savoir qu'aime bien voir l'élu CFDT en face. Ouais, non. Ah, moi, je suis à Sud et il n'y a pas de négociation avec ces gens-là.
Trop tard. Une porte s'est ouverte, mais elle s'est immédiatement refermée. Qu'est-ce que vous faites pour mobiliser les étudiants à Sciences Po?
Alors à la fac, parce que nous on est à la fac, il y a un atelier...
De l'île 2, hein.
Ouais, c'est ça, la fac de droit. Il y a un atelier des grévistes avec des projections, des débats. Donc tous les jours, il y a, à part les jours de manif, tous les jours il y a des ateliers des grévistes auxquels les étudiants peuvent participer. Donc il y a eu évidemment sur les retraites. Demain c'est sur femmes et travail, avec le matin une conférence débat et l'après-midi une projection de documentaire.
Ah, donc des actions variées.
Voilà, en fait, il y a une salle de mobilisation qui nous a été... Enfin, dans la fac. Donc, c'est l'atelier des grévistes. Et donc, les étudiants peuvent venir assister à des débats, des conférences, des projections de films. Donc, sur les grands sujets de société. Donc, il y a eu sur la précarité, sur la grève des avocats, où il y a des avocats qui sont venus expliquer pourquoi ils faisaient cette grève inédite. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants en droit, donc, qu'on a du mal à toucher par ailleurs. Et là, donc, cette semaine... Il y a eu des débats sur la précarité étudiante. Les étudiants se sont réunis en assemblée générale et ils ont organisé la manif d'hier en partie, quoi. Donc voilà. Mais sinon, moi je fais une grève perlée, je fais grève que les jours de mobilisation, parce qu'on essaye de garder quand même le contact avec tout l'ensemble des étudiants, ne pas se couper d'eux. Et donc y compris dans nos cours, on explique les réformes en cours sur les retraites et sur la loi pluriannuelle de programmation de la recherche qui va encore plus précariser les personnels de l'université et des laboratoires. Donc on leur explique tout ça, donc parfois en cours, parfois à l'atelier des grévistes, en fait.
D'accord, l'atelier des grévistes, donc c'est des cours en plus quelque part?
Non, c'est pas vraiment des cours, c'est vraiment des conférences débats où en fait ils ont fait venir par exemple des hospitaliers, des médecins pour faire un débat sur les réformes de santé. Donc c'est vraiment des lieux d'échange avec des personnes mobilisées, il y a des cheminots qui sont venus, etc. Donc c'est vraiment pas un format scolaire, quoi, c'est vraiment des conférences débats.
On est dans le siège du MEDEF là, mais on va où? Juste, on circule dans les couloirs.
Là, on va balader un petit peu, voir où passe l'argent qui a été exproprié depuis des années et des années. On va aller voir un petit peu les petites salles, les petites plantes vertes, tout ce qui fait beau, tout ce qui fait vitrine.
Sur ce tract qu'on trouve au siège du MEDEF à Marcq-en-Barœul.
Alors on est en train de faire un peu de lecture, là je viens de trouver un tract sur lequel il est expliqué que l'absentéisme coûte chaque année 45 milliards d'euros aux entreprises françaises. Et chez vous, vous êtes une PME des Hauts-de-France et vous souhaitez agir sur le sujet. Bref, encore une fois, l'individualisation des problèmes, la culpabilisation des travailleurs. Et...
Alors qu'est-ce qu'ils proposent comme solution à l'absentéisme ?
Alors nous vous proposons un plan d'action individualisé, un diagnostic individuel pour quantifier l'absentéisme, qualifier les différents facteurs, restituer les résultats et proposer des pistes d'action. Bah, on en a, nous, des pistes d'action pour lutter contre l'absentéisme. On peut leur faire des belles propositions. Lutter contre l'absentéisme, c'est retravailler sur l'environnement de travail, c'est mieux payer les salariés, c'est lutter contre la souffrance au travail, lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, mais qui correspond à une réalité sociale. On a plein de propositions à leur faire. La hausse des salaires, on va commencer par ça.
Ouais,
je pense pas que ce soit au programme.
Eux, ils parlent pas du licenciement hein, qui va derrière.
Non.
C'est marrant sur ce track qu'il y a
pas. Non, pas du tout. Non. On va créer des open space, on va créer des lieux un peu in.
C'est ça qui changera tout, bien sûr.
Vous travaillez ici, monsieur ?
Oui, je travaille ici.
Et donc là, les manifestants sont venus. Vous comprenez un peu le sens de leur démarche ?
Bah, le genre d'attitude à voler des verres, je comprends pas trop. Non, qu'on manifeste, je vais bien l'entendre. Qu'on donne des messages, qu'on demande de parler, je vais bien l'entendre. Mais de la façon de faire, ouais.
Là, pour vous, il y a eu du vandalisme.
Non, je peux pas dire. Il n'y a pas eu de vandalisme, heureusement. Mais bon, on est quand même.
Des actes pour le grand public.
Quand même mis devant le fait accompli, et puis on doit entendre, et puis les gens se sentent comme s'ils étaient chez eux. C'est ça que je trouve pas normal. Voilà. C'est l'attitude des gens en fait. Que les gens manifestent, je le comprends. Chacun ses idées, chacun a ses droits pour se porter. Maintenant, on n'est pas là pour enfoncer des portes et puis s'installer là où on veut. Là, tout à l'heure, j'ai demandé qu'on rentre pas parce qu'il y avait du matériel. J'étais limite menacé quoi. Donc, puis là, je vois que là, bah, si j'étais pas là, bah, on emporte tout ce qu'on peut. Voilà.
Vous dites qu'il y a des gobelets en plastique qui ont été pris, c'est ça ?
Bah, voilà. C'est ce que je viens de voir à l'instant. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses, mais c'est ce que je viens de voir. Bon. Et je pense que si j'avais pas été ici sur place, il y aurait eu d'autres choses qui seraient parties, effectivement. Enfin voilà, c'est un petit peu regrettable.
Et voilà, il est 9h27, nous sommes en train de quitter le siège du MEDEF. Il faut quand même noter qu'on n'a pas vu, on n'a vu nulle part le mot MEDEF. Hein, c'était Cité des entreprises. Voilà, et les manifestants, là, qui sont donc 50 ou 100, sont en train de reprendre la direction du tramway pour la suite de cette action et de cette journée de lutte. Et on entend les beaux oiseaux de Marc-en-Barœul. Ici, il y a des oiseaux. Écoutez.
Nous, on voulait insister là-dessus, sur le côté le problème du déficit, il vient notamment de la baisse des recettes, mais effectivement, l'autre problème, c'est qu'il y a plein d'acteurs privés, les banques, les assurances, qui ont énormément d'intérêt en fait à cette réforme, qui voient l'occasion rêver de marchandiser aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros qui sont actuellement socialisés, hein, en quelque sorte, puisque voilà, qui passent pas par des transitions bancaires, par des transactions bancaires et par des systèmes d'assurance. Donc oui, voilà, c'est aussi effectivement le fait de pointer le MEDEF, c'est de dire aussi, on sait très bien, on vous voit derrière votre masque, hein, en fait, on sait très bien qui est favorable à ces politiques, mais en l'occurrence, c'est pas nous, et nous, elles nous sont défavorables, et on vient un peu pointer du doigt, voilà, c'est ceux qu'on voit pas trop, qui sont dans l'ombre, hein, on voit bien, là, ils sont en Marc-en-Barœul cachés, personne ne sait qu'ils sont là, le MEDEF, et bon, de fait, pourtant, leur organisation, elle a un rôle certain dans les réformes qu'on subit depuis des décennies.
On s'est croisé à la chez Peugeot, depuis Adon fait la une des journaux. Le CP me haït, mais est-ce qu'il me vaut une vie côte à côte, ça c'est tout ce qu'il nous faut. Petit coffre en banque pour assurer nos biens, parce qu'avec toi je sais que je le vaux bien. Mon groupe d'actionnaires m'a Laurence Parisot, pour toi j'irai mettre un pied dans le métro. J'ai RDP, t'es mon numéro 10, tu fais passer Galtas pour un gauchiste. Y'a qu'à tes côtés que je suis fancy, pour toi je vendrai mes actions chez Vinci. On se comprendra dans le silence, on prendra des parts dans le secteur de la défense. Mes yeux dans les yeux, plein d'insouciance, on sera le mouvement des entreprises de France. Geoffroy, serre-moi fort, j'ai froid. Ouais. Mon visage posé sur du Hermès, c'est le meilleur depuis Antoine Ernest. Geoffroy, serre-moi fort, comme ça. Ouais. T'es mon actionnaire majoritaire, nous deux plus forts que la force ouvrière. 1, 2, on délocalise, nous nos occasions, je prépare tes valises. 3, 4, on flexibilise, 1 million d'emplois sont promis sur la liste. Toi, moi, c'est qui c'est eux, in love from Gata, c'est le CICE.
Campus sur le 106,6.
Et tout à fait. Et vous écoutiez Geoffroy par Productif, un youtubeur. On part avant d'aller à Strasbourg tout à l'heure. On écoutera Seb dans ses tribulations à Strasbourg.
Et puis des Strasbourgeois surtout.
Oui, avec leur accent. Mmh. Et que je sais pas faire d'ailleurs. Et Jean-Jacques, toi, t'étais à Lille dans une manif autrement plus corsée que celle que la manif choucroute.
Je ne sais pas.
On
l'entendra. Nous, à Strasbourg, on n'a pas mangé de gaz lacrymogène du tout. C'est pas du tout leur habitude. Hein.
Alors là, samedi, c'était un peu la thématique principale.
Ah ouais. Ah, donc à Lille, oui, ok, Strasbourg, non.
Strasbourg,
okay,
non.
Et là, c'était très chaud. C'est ça que tu disais?
Oui. Il y a eu des blessés, des arrestations. Il y a eu le lot des violences habituelles lilloises. Mais
ouais, alors il faut savoir que c'était un rassemblement national, donc il y avait pas mal de monde qui était présent.
On va dire un millier de manifestants à peu près.
À peu près, oui. À peu près. Jérôme Rodriguez qui s'est fait arrêter.
Il était en train de manger des frites chez Meunier.
C'était sur moule frites, voilà.
Mais il a même pas pu finir son cornet de frites et il s'est fait arrêter parce qu'il veut plus présenter sa carte d'identité.
Il faut dire aussi que les flics lui disent: Monsieur Jérôme Rodriguez, nous souhaitons contrôler votre identité. Donc il se fait appeler par son nom de famille, le mec. Donc il est bien reconnu, son identité est reconnue et pourtant on lui demande des papiers. Là, c'est vraiment de l'enquiquinement. Il y a une forme d'acharnement.
Il faut voir que depuis ces dernières semaines, c'est systématiquement qu'il se fait contrôler, bien souvent arrêté. Et donc là,
mais bon, t'étais pas là, t'es quand même allé chercher du son de chez RT pour avoir Jérôme Rodriguez.
Je suis pas tombé sur lui, j'ai pas suivi toute la manif, effectivement, qui était.
N'en dis pas trop.
Qui était bien chaude. Mais alors, vous allez aussi entendre des sons pris jeudi 20, parce qu'il y avait aussi une manifestation à Lille jeudi 20, il n'y avait pas qu'à Strasbourg. Et après la manifestation, il y avait un petit rassemblement de chanteurs et de chanteuses qui chantaient des chansons contre Macron, contre le gouvernement, contre la réforme des retraites. Et ça permettait de donner une visibilité assez originale à cette mobilisation. Voilà, c'était... face à l'opéra, et puis on y a participé aux chansons aussi.
Ah, oui, on t'entend chanter.
On t'entend chanter, écoutez bien, chers auditeurs.
Ça, c'est du journalisme objectif où je m'y connais pas. On glisse, hein.
On
passe au rouge, on glisse.
On a fait une déclaration à 9 déclarants pour avoir un parcours à la base de 8 km qui ne passait pas dans le centre-ville, et on a demandé audience au préfet qui nous a été refusé. Et au final, on nous a imposé un parcours, donc on a encore essayé de refuser ce parcours en renégociant un parcours de 5 km. Et en fait, maintenant, on nous nasse ici et on nous impose un parcours de 3,5 km, sachant que toutes ces personnes sont venues de toute la France. Justement, pour cet appel national, on a fait une marche Lens-Lille ce matin. Des courageux ont fait cette marche de 30 km pour venir à Lille. Il y a une marche Tourcoing-Lille qui s'est passée de 13 km aussi pour faire toutes des convergences ici, à Place de la République, où il y a une association qui s'occupait des SDF, qui nous ont accueillis pour la restauration, et maintenant on nous impose un parcours toujours de 3,5 km. Voilà.
Aujourd'hui, il y a qui ici alors sur la Place de la République à Lille?
Alors, vous voyez, il y a des gilets jaunes de tout partout de la France, de Paris, Saint-Etienne, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux, les gilets jaunes de Lille, Tourcoing, Lens, la région s'est déplacée. On a fait une cohésion avec Valenciennes et Maubeuge, c'est quelque chose d'énorme. Et, voilà. Du coup, maintenant qu'on nous impose un parcours de 3,5 km, ça fait monter la pression, on essaie de négocier, le préfet ne veut toujours pas nous recevoir alors qu'on demande audience. Et je pense que la République, quand on demande une audience à quelqu'un, un représentant de la République, il doit nous recevoir.
De l'autre côté, en face, le gouvernement de Macron ne bouge pas d'un poil. On a l'impression qu'il s'accommode finalement de cette contestation permanente qu'il a depuis des années.
Macron, je pense qu'il est pire que les autres, parce que comme il vient un banquier des affaires, de toute façon, cet homme-là, rien que la loi qui a passé tout au début quand il est arrivé du secret des affaires, déjà, ça, c'était une honte. Et depuis le début, de toute façon, quand on regarde l'histoire, c'est les mêmes gens qui ont mis Macron au pouvoir qu'ils ont mis Hitler au pouvoir. Voilà, donc on voit bien que depuis des années... c'est des micro-dictatures, c'est des dictatures cachées, la représentativité n'a aucune valeur maintenant pour nous depuis ce temps-là, et voilà, c'est une réalité. Maintenant, j'appelle tous ceux qui ne sont pas encore réveillés, tous ceux qui pensent qu'ils vivent bien, mais un jour ou l'autre, ça tapera à votre porte, un jour ou l'autre, vous serez tous malades, un jour ou l'autre, vous pouvez être tous au chômage, un jour ou l'autre, vous pouvez être tous handicapés. Et là, on verra, quand vous aurez que 600 euros ou 350 euros, et ainsi de suite pour vivre, et qu'ils ne vous aideront pas, qu'ils vous donneront des miettes juste pour vous dire on va vous en donner un petit peu, et bien en fait, c'est pas ça qu'on veut. On veut que tout le monde vive bien jusqu'à la fin de leur vie.
Dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour que l'on arrive à gagner, on arrive à remporter la bataille?
Alors, moi j'appelle pas la révolution, moi j'appelle déjà une grève générale de tous les corps de métier. Déjà ça, bloquer le pays, bloquer l'économie, c'est ce que ça a fait bouger déjà. Mais il faut que même le privé rejoigne le public, parce que en fait, voilà, c'est vraiment général pour tout le monde.
Aujourd'hui, après plus de deux mois de cris et de révolte, le gouvernement nous ignore et nous méprise. Que fait-il? Qu'entend-il? Est-ce qu'on existe pour lui? Nous, les enseignants, avocats, chercheurs, cheminots, soignants, et on s'en souviendra. Elle fait traite.
Quand Gérard, tu vas te ramasser au municipal, tu comprendras peut-être pas
qu'il n'y a rien de sacré pour nous que la protection sociale.
On est là.
On est là.
On est là.
Sujet de confusion, l'arrestation de Jérôme Rodriguez, vous le disiez tout à l'heure Sophie, arrêté avant le début de la manifestation, il a depuis été libéré et nous avons pu lui parler, je vous propose de l'écouter.
Reportage de RT France.
Alors je suis arrivé sur l'île, il devait être à peu près 13h30, donc le temps de rejoindre la manif, j'avais un petit creux, donc je suis passé par une friterie me restaurer et à ce moment-là, il y a toute une bardée de policiers qui sont arrivés, prétextant contrôle d'identité ou autre amendement de gilets jaunes ou prétendu gilet jaune qui se trouvait autour du restaurant. Puis ils ont fini par me passer dessus, à vouloir venir une fois de plus à me nommer par mon nom de famille et à me demander ma pièce d'identité. Donc je continue mes actes de désobéissance civile à partir du moment où on sait très bien qui on contrôle. Ils arrivent à m'amender et à recevoir les amendes à la maison sans qu'ils aient mes papiers d'identité. Donc à un moment donné, ça suffit. Ils savent très bien qui je suis. Je viens manifester en paix et pacifiquement parlant. Je ne vais pas me faire emmerder par les flics aujourd'hui. Point barre. Donc je le dis haut et fort. Tant que les flics ne seront pas corrects et cordiales avec moi, tant que les flics m'appelleront par mon nom pour me demander ma pièce d'identité, je ne leur donnerai plus ma pièce d'identité. Que les choses soient claires.
Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui?
Pour montrer que le mouvement des Gilets jaunes est toujours là. Après plus d'un an, on a l'impression que, comme on nous interdit les parcours dans le centre-ville, etc., on a l'impression qu'aujourd'hui le mouvement n'existe plus, mais on existe toujours. Et voilà, c'est important d'essayer de venir chaque semaine pour montrer qu'il y a des gens en nombre, en fait. Comme on ne peut plus aujourd'hui miser sur le nombre, qui était très très important les premiers mois, il faut que ce soit plus efficace en étant moins. Et là, on entend anticapitaliste, c'est aussi parfois briser les symboles du capitalisme. Même si on nous fait croire que, si on fait croire à l'opinion publique que les gilets jaunes ou des partis de gilets jaunes cassent des commerces, c'est faux. En fait, ils sont pas, y a pas de petits commerces brisés. C'est des banques, c'est des assurances, c'est des grosses entreprises qui payent pas leurs impôts en France. Ça a rien à voir avec les petits commerces. Quand il y a de la casse, quand il y a des occupations, quand il y a des grèves, quand il y a quelque chose qui vient bloquer ou casser quelque chose du système, on a l'impression que y a quelque chose qui existe encore malgré le nombre de manifestants qui pourraient diminuer. On voit bien aujourd'hui, malgré tous les amendements qui sont faits au sein de l'Assemblée nationale pour les retraites par exemple, il a bien l'intention de passer au 49-3. Donc ça veut dire qu'il a beau taxer le mouvement d'antidémocratique aujourd'hui, l'antidémocratie, c'est de ne pas écouter ce que les gens sont en train de dire, c'est essayer de passer en force des lois que bon nombre de gens ne veulent pas. Et voilà quoi.
D'abord, est-ce que vous venez d'ici, de Lille ou des environs?
Moi, je suis à une heure d'ici.
D'accord, de où exactement?
Saint-Quentin.
Saint-Quentin. Et donc, il y a un mouvement gilet jaune là-bas qui perdure?
Non, pas trop, ça se perd un peu.
Pas trop, mais...
Justement, on vient dans les grandes villes pour que ça perdure.
Ouais.
Quand il y a un appel, on se doit d'être là, en fait.
Est-ce que vous participez à souvent à de ce genre de rassemblement?
En 60e à peu près.
Ouais.
Ouais, 60e à peu près.
Donc sur l'île en général?
Non, Paris, j'ai fait Paris, Amiens, le Nord, parce que moi je suis du Nord alors. J'ai fait beaucoup Paris.
Quel est le but aujourd'hui là?
Le but de se faire entendre.
Ouais.
Que le peuple se fasse entendre, la précarité. Voilà le pouvoir d'achat. Nous on est ouvriers, nous on est la classe populaire, comme on dit.
Ouais.
Excusez-moi pour mes paroles, mais on en chie tous les jours, quoi.
Qu'est-ce qui, au départ, vous a poussé à aller rejoindre ce mouvement ou aller au début sur les ronds-points quand ça a commencé sur
comme tout le monde, pouvoir d'achat. Hein. Pouvoir d'achat, on est ouvrier, on travaille, on vit pas, on survit.
Vous êtes dans quel secteur?
Moi, je suis ouvrier de production dans une grande usine, Yamaha.
Ouais.
Yamaha.
51, alors.
Ouais, 51. Ouais.
D'accord.
On vit pas, on survit. On survit, on fait 1300 balles par mois. Alors qu'on en chie, on fait 45 heures par semaine, on a des productions de fous.
On a vraiment l'impression que le gouvernement n'entend rien, ça fait pourtant des années qu'il y a un mouvement permanent.
Carrément, le gouvernement. Le gouvernement, il est aveugle, carrément. Macron, il est sur son île, hein, il est par rapport à nous, il y a des centaines de kilomètres. Hein.
Ouais.
Il est sur Jupiter, comme on dit.
Oui, c'est ça, Jupiter. Mais alors, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas malgré toute cette mobilisation depuis des années?
Parce qu'il veut pas entendre. Il veut pas entendre le peuple. Le peuple, il y a 70% de la population qui veut pas de sa réforme des retraites. Il veut pas faire de référendum. Je sais pas, 70% de la population quand même.
Alors comment on va gagner s'il n'entend pas?
En continuant. En continuant des journées comme tu le vois aujourd'hui. On n'a pas d'autres moyens.
Il n'y a pas de solution miracle.
Voilà, on n'a que ça pour nous, la manifestation.
Mobiliser autour de soi, réussir à amener plus de monde.
Il y a tout, j'ai des copines infirmières, il y a tout.
Il y en a à qui j'ai posé la question, qui me parlaient d'une grève générale, publique-privée, ça serait la solution.
C'est ça qu'il faudrait, il faudrait que les gens y comprennent. Ils comprennent que tout ce qu'ils font, c'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour nous.
Vous,
les ouvriers, on va en chier, on va faire 3-4 ans de plus. Alors qu'on est en chier, on soulève des poids tous les jours, la pénibilité. On en parle en ce moment de la pénibilité.
Oui, oui. Est-ce que vous faites grève lorsqu'il y a des journées de grève?
Moi, oui.
Comment vous y arrivez alors que vous avez un salaire si bas?
On supprime. On supprime le salaire.
Vous faites des sacrifices pour y arriver.
Sans solde.
Soutenir le mouvement.
Sans solde. Voilà.
Okay.
On gagne que 1400 euros par mois. On fait, c'est chacun il fait un peu comme il peut.
Ouais, ouais.
Voilà.
Vous arrivez à convaincre autour de vous quand il y a ces journées de mobilisation?
Nous, dans notre usine, on est 600, on est 3 gilets jaunes. Le peuple, il comprend rien. Pour moi, il comprend rien.
Et les syndicalistes?
Nous, chez nous, franchement, excusez-moi du mot, mais c'est de la merde. Franchement, nous, chez nous, il n'y a pas de tract, il n'y a que dalle pour les grèves et tout, il n'y a aucun tract.
En gros, les seuls qui se bougent, c'est les 3 gilets jaunes.
Voilà. Voilà. Et on nous le reproche, d'ailleurs.
Ouais.
On nous le reproche, quoi.
Vous n'êtes pas délégué du personnel?
Non, non, non. Oh, non.
Donc sans protection?
Sans étiquette, rien du tout.
Sans protection non plus, quoi.
Aussi. Aussi.
Merci beaucoup, bonne manif.
Pas de soucis.
Vous y êtes nos retraites, vous faites crever l'hôpital. Prépare-toi à faire tes mal, j'ai peur les municipales. J'ai perdu la tête depuis que j'entends Violette. Je perds la raison depuis qu'elle fréquente Macron. J'ai perdu la tête depuis que j'entends Violette. Je perds la raison depuis que je fréquente Macron. Les avocats, humilier les ouvriers, insulter les enseignants, bastard et insolent, Benico et Castaner, nos exemples d'humanité, répondre à l'insécurité, et nous plonge dans la misère, Macron et son pas de macroque, de quoi et son peu d'accent, puis de l'espérance.
Sa petite paire de noix gonfle un petit poil sa mini-jupe. Elle a des gambettes comme un fil à couper le roquefort. Ses petits os plats sous son chemisier me préoccupent autant que le joli sourire qui lui sert de passeport. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM. chez le Boriri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle cuisse de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Elle chante tout le temps sans finir sa chanson. C'est la faute bien sûr à ses tout petits poumons. Elle allait au prix unique acheter ses panzani. Moi j'attendais que la vendeuse me donne mon riz précuit. Elle me dit Dieu me chatouille, vous êtes le beau Pierrot. Et parole de cuisse de mouche, c'est vous que j'ai dans la peau. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM, chez le Boriri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle cuisse de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. Et si la pauvrette n'est pas très gastronome, c'est la faute bien sûr à son petit estogomme. Elle m'explique alors que son petit fiancé est pitoyable. Depuis qu'il s'est fait court-circuiter le piège à mémé, il a plutôt l'air d'une virgule dans Les Misérables que d'un trait d'union dans La Mandelée des Châtelet. C'est pour ça qu'on l'aime dans notre HLM, chez le Boriri ou dans le bistrot de la mère Tadzi. On l'appelle cuisse de mouche fleur de banlieue. Sa taille est plus mince que la retraite des vieux. De deux choses l'une, quand elle s'assied tendrement, son cul est trop petit ou mes genoux sont trop grands.
Pierre Perret, cuisse de mouche. On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus, en 6,6. Et vous l'attendiez, ce départ pour Strasbourg avec, avec Seb. Seb, qui a-t-on vu dans cette manif strasbourgeoise régionale, sans doute, je pense?
Une manifestation qui démarrait place de l'Âtre, aussi appelée place de la Bourse, à Strasbourg. On est dans le centre-ville, hein, ici, il n'y a aucun problème de parcours à Strasbourg. On passe presque au pied de la cathédrale. Et bien, on retrouve à peu près les mêmes organisations syndicales et politiques qu'à Lille, c'est-à-dire la CGT, qui est,
le groupe le plus
représenté. La CGT avec, à l'arrière de son camion, alors sur le camion, un groupe qui joue en direct pendant toute la manifestation.
C'est bien ça.
Qu'on entendra un petit peu pendant le reportage. Et puis aussi une pancarte avec marqué non au GCO, parce qu'il y a une bataille locale en Alsace autour de Strasbourg. C'est
le contournement, c'est ça.
Le grand contournement ouest, oui, c'est ça.
Et ça va faire une ZAD, ça va partir. Et tira, bah, Seb, hein, tu couvriras l'affaire.
Les travaux ont déjà commencé. Là, il y a des forêts centenaires qui sont massacrées pour se fabriquer des nouvelles autoroutes à Strasbourg. Alors, à part ça, on trouve aussi Sud, pas tellement représenté, mais un peu présent quand même. La FSU, des syndicats d'artistes et d'intermittents. Et puis, du côté des organisations politiques, j'ai vu quelques drapeaux France Insoumise, pas tellement. Et puis, le Parti communiste français d'Alsace, là, qui est assez bien représenté. La JC, aussi, les jeunesses communistes.
T'as pas dit combien de monde y avait,
par exemple, le NPA. Pardon ?
T'as dit combien de monde y avait ?
Non, il y avait, je dirais, alors à un moment donné, j'interview, là, on va l'entendre dans quelques instants, un représentant Sudrail qui a vu de nez dit 1000-1500, mais je pense que oui, il y avait quelques milliers, quoi, disons moins de 5000 en tout
D'accord.
cas.
D'accord, mais alors juste avant ce représentant Sudrail, on va entendre une métallo de Essenheim, tu me disais, de la CGT.
Essenheim.
Oui, excuse-moi, je suis pas de là-bas, moi.
Allez, c'est parti.
Manu, rentre chez toi, il y a du monde plein la rue. La retraite, c'est pas toi qui la prendra dans le cul. Aucune hésitation. Non, à la réforme Macron.
Sur contrôle d'entrée, contrôle qualité.
Qu'est-ce qui vous a fait descendre dans la rue aujourd'hui ?
La réforme retraite. C'est tout, la capitalisation future, l'âge pivot. On va aller travailler comment à cloche-pied ? On va travailler avec un Youpala ? Je sais pas moi. On va profiter de quoi ? De la vie ? Rien du tout. On va passer notre vie à travailler. Ça doit faire au moins un mois, en tout, hein, je compte la totalité, hein. Un mois de grève.
Donc vous avez déjà reçu des fiches de salaire
avec du moins.
Ouais, c'est ça, et ça a beaucoup baissé, ça va continuer encore là. Hein.
Oui, bah ça baisse, mais tant pis. Hein. Moi je préfère encore que mon salaire baisse là actuellement, maintenant, plutôt que quand je vais être à la retraite, je vais me retrouver ou à la rue, parce que j'aurai pas les moyens de vivre. Donc moi je préfère encore faire grève là, et défendre la retraite et pour les futurs aussi enfants, c'est pareil, il faut les défendre aussi. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Déjà, c'est assez difficile pour eux. Mais alors là, je sais pas, ça fait peur quand même. Donc, il faut continuer.
C'est pas au patronat de faire la loi. La vraie démocratie,
elle est ici.
Vous êtes de quel syndicat ?
Sudrail, Strasbourg.
Donc vous êtes un cheminot ?
Ah oui. On n'a qu'une seule revendication, c'est le retrait de ce projet qui est complètement néfaste pour l'ensemble de la société française. Quand on arrive sur la place de la Bourse, au début de la manif, on se dit « Putain, il n'y a pas grand monde aujourd'hui ». Et finalement, quand le cortège se met en place, on se rend compte que d'une manif sur l'autre, il y a toujours à peu près autant de monde. Ça veut dire que les gens sont toujours autant mobilisés.
Vous diriez qu'il y a combien de manifestants aujourd'hui ?
Là, je sais pas, à vue de nez, entre 1500 et 2000. Et globalement, c'est à peu près ce qu'on fait sur depuis 4 ou 5 temps forts, à peu près. On a eu des grosses manifestations à 10 000, ouais, il faut le dire aussi.
C'est beaucoup pour Strasbourg, hein, je crois.
Ah, c'est énorme, je crois que c'est une des plus grosses manifs qu'ils aient jamais vues ici. C'est génial. Mais voilà, là, pour l'instant, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, la mobilisation reste là, malgré les vacances, malgré tout ce qu'on peut raconter à côté, quoi. En 95, quelqu'un qui rentrait dans un mouvement de grève, s'il en sortait, il en sortait définitivement. Aujourd'hui, avec la loi Diard depuis 2008, un agent peut être en grève 2 jours, reprendre le boulot 2 jours, refaire une semaine de grève, rejoindre le mouvement, ressortir et tout. Ce qui fait qu'on ne sait même plus qui est gréviste, qui a été, qui le sera, ou je ne sais pas. Et on se dit, on ne va pas commencer à incendier les collègues, parce que demain, ils seront peut-être avec nous. Alors qu'en 95, à la limite, celui qui allait bosser, c'était le goudron et les plumes, et puis c'était terminé. Ou alors tu rejoins le mouvement, ou alors on ne veut plus te voir ici.
Ça, c'est sur Strasbourg. Il dit que ça manque de discipline chez les grévistes un petit peu, mais il a l'air un peu amer quand même.
Non, je trouve plutôt qu'il a l'air de dire que la configuration est différente, que ça évolue, que ça correspond plus tout à fait au modèle précédent et puis à la précédente
de guérilla permanente en fait. Hein, on est passé sur un autre modèle de mobilisation.
Ouais. Il dit quand même que c'est une grosse mobilisation et voilà pour Strasbourg.
Complètement.
Mais c'est une ville quoi, de droite plutôt, de gauche.
Roland Ries là qui est l'actuel maire et a rejoint la République en Marche.
Alors, ah oui, d'accord.
Il avait une couleur plutôt centre gauche là.
Ok. Bon là on va écouter quelqu'un qui a une couleur plutôt rouge puisqu'il est il est au micro du camion de la CGT.
Et oui voilà. Alors on connaît bien à Lille maintenant le fameux duo Sam et Abdel qui sont à l'avant des manifs et qui animent tout ça en lançant les slogans et en prenant la parole, et bien à Strasbourg aussi, il y a l'équivalent. Donc il s'agit de cet homme, ce militant de la CGT, qui met beaucoup de résonance sur la sono de son micro.
Il aime la réverb.
Vous allez l'entendre. Et ce qu'on entend aussi, c'est... Oui, je voulais juste signaler, il n'y a pas de black bloc là, il n'y a rien qui y ressemble, par parenthèse.
C'est l'Alsace. L'Alsace, à la base, c'est déjà violent, quoi.
je ne sais pas, je ne dirais pas ça, non, mais... Donc le gars qui tient le micro de la CGT nous fait aussi le récit finalement des luttes locales, parce que en dehors de la bataille des retraites, il y a aussi bien entendu des luttes locales, des boîtes qui ferment un peu partout en Alsace.
Comme chez nous.
Chaud contre la réforme des retraites, chaud contre ce gouvernement. Ce gouvernement qui permet les licenciements comme aujourd'hui à Punch. 50 licenciements de prévus. Un actionnaire qui s'en fout plein les fouilles. Des politiques qui laissent faire et qui ne font rien. Et c'est aussi Supra, fleuron de l'industrie alsacienne, aujourd'hui victime d'un nouveau plan de licenciement. Eh oui, les licenciements, ça n'arrive pas qu'ailleurs. C'est pas simplement à Whirlpool, c'est pas loin, 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 c'est tout près. C'est à Strasbourg chez Punch, c'est à Aubernais chez Supra. Allons-nous laisser faire cela ? Allons-nous encore accepter ces licenciements ? Alors que les financiers se font plein de pognon ! Alors que Bernard Arnault et compagnie s'en foutent plein les poches.
Mais dis-moi, il y a des GJ aussi à...
Ah oui, oui, oui.
On va en entendre.
Il y a des gilets jaunes. Alors, on peut signaler qu'on a fait beaucoup d'autres interviews que celles qu'on écoute ce soir. Vous pourrez les entendre, un reportage bien plus complet dans l'émission L'Heure de le Mettre ce mercredi à 18h30 sur Radio Campus.
Et on va entendre aussi le secrétaire de l'UDCGT.
Oui, l'équivalent de Jean-Paul Delescaut, là, qu'on aime interviewer. Alors, lui, c'est Jackie Wagner, en effet. Et qui nous parle non seulement de la mobilisation, mais aussi de la situation économique en Alsace, ce pays qui autrefois était si florissant, où le chômage était si bas.
Calme-toi, Seb, c'est qu'un département.
Il était un Macron qui croyait au
marché. Merci à la FSU, hein. Merci à la FSU pour les super slogans.
Macron a fait
Oulihoula.
Macron a fait
Oulihoula.
Stop. Trois points en arrière. Trois points en arrière. C'est la politique du gouvernement.
Vous êtes un gilet jaune, monsieur ?
Depuis le début, depuis le 17 novembre, je fais partie des gilets jaunes.
Au départ, c'était le prix du carburant.
C'était le prix du carburant, mais bon, ça n'en est pas resté là, parce que bon, le prix du carburant, de toute façon, il a dépassé le...
Il a augmenté.
Il a augmenté depuis, donc on se fout de nous. Il n'y a pas de... Il n'y a pas eu d'avancée. Hein.
Pourquoi est-ce que Macron, il ne cède pas ?
Ben, je pense que Macron, c'est pas lui qui cède pas, hein, c'est plus haut. Hein. Je pense qu'il a été mis en place par Bruxelles, et c'est Bruxelles qui tire les ficelles. Hein. Je pense qu'on y sera encore pour un bout de temps. Hein. Et de toute façon, nous, on ne lâchera rien. Ça, c'est sûr.
Jean-Michel Blanquer, on n'a pas confiance en toi. Jean-Michel Blanquer, ministre autoritaire, prends ta retraite, ça nous arrange pas.
Je suis avec le secrétaire de l'UD Barin, hein, c'est bien ça. Vous appelez comment, monsieur ?
Jackie Wagner.
C'est monté jusqu'à combien à Strasbourg pour cette bataille des retraites ?
On était à 15 000 le premier jour, le 5 décembre. Et c'est vrai qu'entre-temps, ça fluctue. Il y a une fois, ça baisse, une fois, ça remonte. Mais aujourd'hui, ça s'explique en grande partie à cause des congés scolaires, mais aussi de la lassitude. Il y a un moment donné, il y a de la fatigue. Et c'est cette fatigue peut-être qui fait en sorte que les mobilisations sont moins... linéaire, qu'il y a une fois des baisses et une fois des hausses quoi, de participants.
Est-ce qu'il faut s'attendre à respirer des gaz lacrymogènes chez vous aujourd'hui ?
Non, je ne pense pas, à moins que vraiment ça dégénère. Non, en règle générale, on n'a pas ça sur Strasbourg, les gaz lacrymogènes, on n'en a pas souvent. Quoi.
La revendication là pour ces manifestants, c'est laquelle ?
Ben, c'est le retrait du projet sur la retraite à points. Et se rajoutent aussi d'autres revendications. On a les hôpitaliers qui sont là, On a d'autres entreprises qui sont là où l'entreprise est sous le coup d'une fermeture ou alors d'un licenciement pour motif économique. Donc tout se mélange, mais le point principal, c'est le retrait du projet de loi sur la retraite à points. Ce qui manque, c'est qu'on soit encore beaucoup plus de salariés dans la rue et que les salariés aient conscience que c'est pas perdu, parce que le fait de ne pas venir, c'est peut-être aussi qu'il y a une démotivation pour se dire on nous répond pas en face. Et donc sur ce fait-là, on ne vient plus. Mais c'est tout le contraire qui devrait être fait. Il faudrait venir se mobiliser de beaucoup plus nombreux pour justement démontrer que ça n'a pas de fin et que ça n'aura une fin que quand le projet sera retiré.
On est là, on est là. Et s'il faut que ça dure longtemps, ben on sera là. Pour l'avenir de nos retraites et pour celle de nos enfants. Et s'il faut que ça dure longtemps, ben on sera là.
Il est chouette ce slogan, hein.
On est là,
on sera là.
On est là.
Alors c'était le 22 février dernier et c'était à Strasbourg. Et vous pourrez entendre un reportage beaucoup plus long mercredi, là, dans L'Heure de le Mettre.
On sera là, on est là, on est là. Et s'il faut que ça dure longtemps, ben on sera là. Pour l'avenir de nos retraites et pour celle de nos enfants. Et s'il faut que ça dure longtemps, ben on sera là.
On passe au Rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux, en podcast sur campuslille.com. Et... Et nous accueillons Roxane, une des animatrices de Des Flips et des Flops, qui vient nous parler d'une...
Entre autres,
oui, pas que.
Et,
oui,
une, aussi et une... de l'émission bizarre de samedi 16h.
En latin, là.
D'été fabula narratoire.
C'est ça, on n'arrive jamais à vous annoncer parce qu'on ne sait pas prononcer.
C'est impossible, on est nuls, nous.
Vous avez dit raconte ton histoire et vous êtes les bienvenus pour écrire des histoires. Et oula, nous merci, les lirons Roxane. En direct.
Bah, très bien.
Mais pourquoi est-ce qu'on entend Roxane dans cette émission? On a remplacé Massilia au pied levé ou quoi?
Juste comme ça, parce que Roxane a une info, une actu, c'est quand
Alors, le jeudi 5 mars, ouais. À partir de 19h, à la maison des étudiants, tous les étudiants mobilisés vous invitent.
Ça, c'est à la faculté scientifique de Lille.
Ouais. C'est donc à Cité Scientifique, Métro la maison Cité des scientifique. Étudiants, Lille 1, le campus, tout près de Radio Campus. À partir de 19h, il va y avoir plusieurs groupes, il y aura une diversité musicale. Pour le coup, on est parti sur 8 groupes, peut-être que tout ne sera pas possible, mais... Je ne vous dis pas pour le moment, à part une artiste qui est certaine de venir, elle s'appelle Oham, elle vient de Paris, je l'ai rencontrée à l'anniversaire des Gilets jaunes.
Mais pourquoi donc ces gens se réunissent-ils pour faire la fête?
Alors ce jour-là, c'est une grosse journée de mobilisation hein, déjà, ah oui. Mais sur la fac, c'est une journée université et chercheurs, et donc enseignants-chercheurs et étudiants qui font...
En lutte.
Voilà, qui sont en lutte, mobilisés. Qui font une... je ne sais plus si c'est université morte ou... mais je trouvais que c'était... Il y avait une belle formule blessé. Avec « à la recherche de l'université perdue
». Et donc de 19h jusqu'à tard dans la nuit, il y aura des concerts avec des étudiants...
Jusqu'à 3h du matin, on a la ND.
Donc des étudiants éméchés, mais mobilisés. Et ça, c'est le 5. Il y aura également dans la journée une manif à Lille. Rendez-vous 14h30, je crois, porte de Paris. Mais juste avant, il y aura le 27 février, il fallait que j'en parle, il y a Darmanin, on vient te chercher chez toi.
Alors Darmanin, c'est l'actuel ministre oui. macronien, celui des comptes publics, en effet.
Qui ne connaît pas Darmanin, n'est pas français.
Qui a fait son trou à Tourcoing et puis qui veut remettre ça, là.
Hein. Bah, il y retourne, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est rendez-vous 18h30, métro Falampin à Tourcoing pour
du
une
coup, il veut cumuler ses mandats.
Du coup, quand lui, même, on est obligé de citer aussi une autre organisation politique de l'autre bord. On pourrait citer par exemple la belle initiative qui s'appelle Résistance Populaire, qui est un groupe politique. C'est des citoyens
alors
et puis
là, c'est
des gilets jaunes
anticapitalistes hein.
Et des gilets jaunes, voilà, qui sont organisés politiquement à Tourcoing.
Donc voilà, c'est fait. Si vous êtes du CSA, regardez Seb et votre petit toutou, il suit vos directives à la lettre. Merci Seb. Seb, tu réalisais cette émission?
Oui, oui, et c'est toi qui l'animais,
mon
cher.
Nous avions Gigi et notre invité Roxane. Oui. Merci Roxane d'être venue pour parler de la mobilisation.
La semaine prochaine.
On passe au rouge, c'est terminé parce que rien n'a encore changé. Salut Milky, tu es là, tu es prêt, tu as deux invités.
Exact.
C'est énorme.
Ça va être génial.
C'est un plus deux direct.
Boum.
Du jamais vu dans... Boum. Accrochez-vous, chers fidèles auditeurs de Rien n'a encore changé. On se retrouve lundi prochain, 19h à 20h. Et sinon, il y a bien sûr...
d'autres émissions.
Oui, l'heure de mettre, le mercredi. Des flips et des flops, c'est quand des flips et des flops, Roxane?
C'est le vendredi à 13h, le premier et troisième vendredi.
Il suffit de
demander. C'est une dimension.
Exactement, puis il y a ELBC aussi tous les 15 jours, le mercredi aussi, je crois.
Il s'agit plutôt d'une émission mensuelle.
Merci. Il s'agit de te remercier, Seb.
Gros dada, c'est toi qui as animé cette émission. Merci à toi et merci à Jean-Jacques.
À lundi prochain. Salut
pour d'autres reportages et d'autres interviews sur Radio Campus.